et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une chronique actualité pour parler de la situation du droit des femmes au Québec qui, on pense, devrait aller seulement par en avant et évoluer, mais c'est pas forcément ça qui se passe. Et surprenamment, c'est que les attaques semblent venir des groupes féministes. Moi, ça me dépasse totalement. C'est Alexandra Houle qui a porté ça à mon attention de Réseau Féministe Québec. Merci, Alexandra, de m'en avoir parlé. Bienvenue.
Merci, Héloïse.
Mais écoute, c'est pas la première fois qu'on te voit, tu commences à être une habituée de ma chaîne et c'est toujours très édifiant quand t'es là, tu nous apprends plein d'affaires. Là, il y a un projet de loi en ce moment qui a lieu, ça s'appelle le PL1, c'est sur la Constitution du Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce projet de loi-là?
Oui, bien dans le fond, la CAQ a déposé un projet de loi qui serait comme la loi des lois le 9 octobre dernier. Fait que c'est le projet de loi de créer une Constitution québécoise. Fait que tu sais, c'est vraiment comme le PL1, ça serait comme la loi qui chapeauterait un peu comme toutes les lois.
OK.
Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez significatif pour la nation québécoise. Puis dans ce projet de loi-là, tu sais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que on ajouterait l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi le fait que au Québec, l'égalité entre les femmes et les hommes est supérieure, elle serait dans les droits au-dessus de la liberté de religion. Fait que ça fait en sorte que, mettons, un homme qui refuserait de se faire servir par une femme dans un restaurant parce que sa religion, ben, fait en sorte que lui, ben, les femmes, c'est comme pas grand-chose, ben, tu sais, le droit de la femme serait comme...
primerait.
C'est ça. Fait que, tu sais, si jamais elle voudrait poursuivre parce qu'elle a vécu du sexisme, on prendrait en compte que elle a vécu la misogynie, puis la misogynie, c'est pas acceptable au Québec, même si le monsieur, est d'une XYZ religion qui, pour lui, les femmes sont inférieures aux hommes.
Puis en ce moment, c'est pas déjà le cas que l'égalité homme-sexe, c'est pas dans aucune loi, ça, au Québec?
On a l'égalité des sexes dans la Charte des droits et libertés, mais c'est au même niveau que la liberté de religion dans la Charte canadienne.
OK, je comprends. C'est une question de niveau, là. C'est que là, soudainement, on l'amène là.
Fait que là, nous, au Québec, ce qu'on décide de faire, c'est de la mettre là. Parce qu'on a vu dans les dans beaucoup d'accommodements religieux, que ce soit au travail ou un peu partout, que souvent la religion de la personne va comme passer au-dessus. T'sais, pour te donner un exemple, les discours haineux qu'il y a dans certaines religions qui sont à l'encontre des femmes, on va les tolérer au Canada parce que ça rentre dans la religion, mais tu sais, c'est de la misogynie.
Oui, OK. Puis c'est incompatible avec notre culture ici. En tout cas, du moins, ça semble être de plus en plus comme ça qu'on fait les choses au Canada. Mais au Québec, Legault est en train d'essayer de définir ça avec des balises claires.
C'est ça. Ce qu'on décide au Québec, c'est que l'égalité homme-femme, c'est en premier, peu importe la religion que tu as.
Ça fait surprenamment... Mais là, on va pas parler tant que ça des groupes religieux, mais ça me surprend, c'est pas les groupes religieux qui semblent réagir autant que les féministes.
En fait, ce qui est vraiment absurde, là, je vais te dire, parce que nous, on a participé au début des auditions pour le projet de loi 1, parce que toute la population a été invitée à commenter le projet de constitution. Fait que tu déposes un mémoire, tu demandes à être entendu, tu as la possibilité de te faire entendre, puis il va y avoir des auditions là jusqu'au 18 février. Ça te donne une idée. Là, c'est une des plus larges consultations publiques qu'il y a eu depuis je sais pas combien d'années. Là, c'est pas carrément la plus longue. Là.
Mieux pour une fois qu'ils consultent le peuple.
Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est le moment là pour dire ce qu'on a à dire. Fait que tu sais, si toi, Alain, tu voudrais être entendu là-dessus, tu pourrais faire la demande, puis tu pourrais être entendu.
OK.
Donne une idée, là, c'est quand même assez large comme processus. Donc, nous, le RFQ, on est allé le 4 décembre dernier.
OK.
Pour notre analyse à nous du projet de loi 1. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'on était dans les rares qui appuyaient l'égalité homme-femme dans la Constitution et le fait que l'égalité homme-femme doit primer sur la liberté de religion.
Vous avez constaté ça lors de votre passage en audition le 4 décembre? Vous aviez déjà pris le pouls un peu en écoutant les autres auditions?
On avait pris le pouls en regardant les mémoires qui avaient été déposées par plusieurs organismes de défense de droit, dont plusieurs organismes de défense de droit des femmes. Puis on est un peu capoté.
Il y a de quoi capoter. Là, c'est le réseau des femmes? Non, c'est quoi le... Non, c'est FFQ.
Oui, la Fédération des femmes du Québec, eux, ont déposé un mémoire qui demande carrément le retrait de l'égalité homme-femme du projet de constitution.
C'est, moi, ça, pour vrai, je me suis dit, ça doit être une erreur là, quand tu m'as dit ça. Mais là, j'ai été écouter l'audition. C'était assez pénible quand même d'écouter l'audition de réseau. Premièrement, ah, ça, je dis réseau, la Fédération des femmes. Je pensais que c'est la Fédération des féministes, mais c'est vraiment la Fédération des femmes du Québec. C'est important de remettre en contexte pour ceux qui ne savent pas que ça fait longtemps que je trouve qu'ils ont comme ils l'ont échappé. Là, en 2017, ils ont élu un homme à la tête comme présidente parce que c'est une femme trans. Gabrielle Bouchard, ça avait fait couler quand même beaucoup d'encre. À ce moment-là, on posait la question, est-ce que le combat des trans et des femmes est incompatible? Bon, c'est une question qui fait encore beaucoup réagir, mais qui crée de plus en plus de tensions parce que c'est très polarisé. Et là, donc, c'est ce même organisme qui est la FFQ qui a déposé le mémoire. Donc, c'est eux qui ont comme emboîté le pas là, pour tous ces autres organismes. Ils sont rendus à combien d'organismes qui ont signé ce mémoire-là?
Sont plusieurs. Tu sais, comme le leur, je pense que c'est une soixantaine d'organismes qui l'endossent, dont des tables de concertation de groupes de femmes, des regroupements de centres d'hébergement pour femmes. En tout cas, tu sais, c'est inquiétant. Puis aussi, d'autres initiatives de regroupement d'organismes communautaires autonomes qui, eux, ont fait un mémoire qui demande sensiblement la même affaire que la Fédération des femmes du Québec. Puis eux, ce qu'ils demandaient aux organismes communautaires, c'est de faire un copier-coller du mémoire qu'ils avaient eux-mêmes, qu'eux avaient créé. Fait que, tu sais, nous, on a vu ça sur les réseaux sociaux, puis on était comme, ben voyons donc, tu sais, on va pas vraiment voir dans les auditions publiques des centres
d'organismes
qui vont copier-coller le même mémoire. Parce que pour informer les gens, quand on commente un projet de loi, on va déposer un mémoire. Fait que ça, c'est l'analyse que nous, on en fait. Nous, l'organisme ou la personne, ou le professeur, ou n'importe qui veut commenter. Fait que c'est un peu comme un travail de fin de session, là, pour que les gens puissent avoir une idée. Que tu déposes, puis dans le fond, les députés vont prendre ton mémoire, ils vont le lire, puis ils vont te poser des questions sur ce que tu as écrit dans ton mémoire.
Oui, OK.
Donc, tu sais, on part de là. Puis là, c'est ça. Fait que là, dis-toi qu'ils ont reçu des centaines de mémoires qui demandent le retrait de l'égalité homme-femme, puis également que l'égalité homme-femme ne soit pas au-dessus de la liberté de religion, parce que là, ça vient créer comme du sexisme, puis de l'islamophobie et du racisme.
Ah, bien sûr. OK. Vous avez envie de prendre soin de votre santé tout en soutenant mon travail, vous pouvez le faire en allant faire un tour dans ma boutique où j'ai mis des produits que j'affectionne particulièrement, que j'ai adoptés dans ma routine. Bien entendu, le bracelet de performance dont je parle souvent, qui est le bracelet CM2, c'est un émetteur de champs électromagnétiques pulsés, à ne pas confondre avec les champs électromagnétiques de haute fréquence qui, eux, sont très dommageables pour la santé, comme la 5G, le Wi-Fi, etc. C'est moins de 100 Hz et ce que ça fait, c'est que ça permet une meilleure circulation sanguine, meilleure élimination des toxines. Donc, c'est excellent pour soutenir votre sommeil, soutenir aussi votre énergie globale tout au long de la journée. Très bon si vous avez des douleurs chroniques inflammatoires. Alors, personnellement, je le recommande vraiment si vous avez envie de vous trouver un outil qui est portable, facile à utiliser au quotidien et qui n'est pas du tout dommageable pour votre santé. Aussi, moi, personnellement, je me cherche toujours des outils pour mon énergie, surtout l'hiver. J'ai adoré le MOA. C'est une pochette à boire de 36 super aliments, tous des aliments qui sont prouvés comme étant antioxydants, donc qui aident à lutter contre le stress oxydatif. Et c'est assez impressionnant le boost d'énergie que ça me donne. J'ai pas besoin de faire de sieste comme j'avais toujours besoin à ce temps-ci de l'année. Ça me supporte tout au long de la journée. À 15% dans ma boutique. Et une promo toute spéciale pour le mois de décembre, c'est rejoindre ma communauté VIP pour seulement 40$ pour l'année. Donc, l'abonnement annuel qui est généralement 65$, ça vous revient à moins de 3,50$ par mois et ça vous permet d'avoir accès à des contenus exclusifs, des contenus en primeur avant tout le monde. Toutes ces amalgames qui nous surprennent plus, mais qui sont quand même assez extraordinaires. Tu vois, je vais juste citer un passage de la FFQ pendant leur audition. Ils ont dit... que le projet de loi exclut les personnes binaires et trans et qu'il est figé dans la binarité des sexes. Donc, finalement, c'est une façon de dire l'égalité homme-femme ne fait que considérer la version qu'on avait il n'y a pas si longtemps de ce qui était des hommes et des femmes, mais comme cette définition-là a totalement changé, explosé, puis qu'elle ne veut plus rien dire, c'est juste de l'auto-identification maintenant, il faudrait prendre en considération, mais tu sais, ils disent finalement que ça fait l'unanimité, que la science est derrière ça, qu'ils sont complètement comme arriérés dans leur projet de loi. C'est ça l'angle, finalement.
Oui, bien, c'est ça l'angle. C'est ça l'angle d'à peu près toutes les auditions de groupes communautaires, d'organismes communautaires qu'on a entendus. C'est tout ça qui répète.
OK.
Puis tu sais, c'est troublant parce que je pense pas que c'est un consensus social que on est tous une identité de genre fluide.
On essaie vraiment beaucoup de nous le faire absorber, ça, par contre, que c'est un consensus. Ouais. Tu sais, c'est, ça devient difficile de dire qu'on pense pas ça. Je pense que ça prend du courage le dire en ce moment dans la sphère publique. Là.
Oui, puis pourtant, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. C'est qu'il y a des hommes et des femmes. Puis, tu sais, là, on a ajouté dans la Charte des droits et libertés québécoises et canadiennes que tu pouvais aussi être protégé par rapport à ton identité de genre. Mais tu sais, le sexe, c'est dans un article, puis l'identité de genre est dans un autre. T'sais, on n'a pas fusionné les deux, là. Mais eux, en faisant la demande de retirer ça, c'est que là, on demande aux législateurs de changer la notion de homme-femme-sexe pour identité de genre, tu sais. Fait qu'à la place, c'est soit l'égalité entre les femmes et les hommes, on voudrait que ce soit l'égalité, mettons, entre les personnes.
Ben là, tu sais, comment tu fais la part des choses? Ça va être quoi, le référent?
C'est ça.
Puis en fond, la misogynie n'existe plus, basée là-dessus? C'est
non,
comme...
c'est des personnes.
Ben c'est ça, c'est pas une... T'sais, c'est quoi une femme, finalement? C'est selon son senti.
C'est ça, puis tu sais, ce qui est troublant dans tout ça, c'est que, tu sais, c'est une chose que tu aies un groupe qui le demande. Tu sais, t'as quoi, là, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur un projet de loi, puis amener ses propres analyses selon leur niveau d'expertise. Mais là, quand c'est pas un groupe, ben que c'est, mettons, une cinquantaine de groupes qui, à eux seuls, représentent plus de 10 000 organismes communautaires au Québec à grandeur de la province, là, ça envoie un autre message. Ça donne l'impression qu'on pense collectivement ça, puis que c'est ça que tout le monde veut.
Mais est-ce que c'est la réalité?
Ben écoute, moi, j'ai des petits doutes. Si on avait à faire un sondage là, auprès de toute la population, je suis pas mal certaine que la grande majorité de la population serait en faveur qu'on conserve l'égalité entre les femmes et les hommes dans un projet de constitution. Là. T'sais, c'est la base de notre société, puis c'est quelque chose qui est assez consensuel au Québec.
Puis ça fait même partie des droits des hommes, là, je veux dire, à l'international. Là, l'égalité, on reconnaît que les femmes et les hommes sont égaux dans leurs droits. Là, c'est
oui, bien c'est ça.
Mais c'est plus ça.
Comme un espèce de groupe organisé qui dit représenter toute la population, qui donne l'impression que c'est plus consensuel l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.
C'est ça. Puis ce que tu me disais tantôt, finalement, c'est que c'est du copier-coller. Donc là, ça donne un peu l'impression que ça vient d'un texte source. Puis là, tout le monde répète ça ou ce militantisme-là ou cette idéologie, parce que bon, pour moi, ça reste quand même du militantisme et de l'idéologie. Mais comment expliquer? Où est la source? D'où ça vient, ça?
Ben c'est ça qui est un peu flou, parce que là, c'est tel organisme qui dit aux autres de faire un copier-coller de leur mémoire, puis les autres partagent, faites un copier-coller de ça, fait que, tu sais, au final, tu sais plus trop qui est-ce qui est l'auteur réel
de
ce document-là. Pour que les gens comprennent à quel point c'est absurde, puis qu'on prend la peine de vous en parler, c'est parce que pendant les auditions publiques, c'est en train de devenir un cirque parce que c'est rendu à un point où le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, demande aux organismes s'ils ont copié-collé leur mémoire, puis si c'est le cas, qui est l'auteur?
Pour vrai?
Là, c'est une séance de patinage artistique parce que là, écoute, c'est pas des étudiants au cégep là, qui répondent, c'est des directeurs généraux, c'est des présidents d'organismes. Qui représentent les plus grandes tables de concertation de la province et les plus gros regroupements d'organismes communautaires du Québec.
Puis ils sont là à patiner puis pas savoir quoi répondre.
Ouais, à faire « Ah, oui, on a copié-collé. »
Ils disent, ils l'admettent.
Oui, il y en a, ils l'avouent. Oui, on l'a fait, mais on est...
Mais on est d'accord avec ce qu'on dit pareil, genre, c'est ça?
C'est ça.
OK. Wow.
Fait que, tu sais, pour moi, pour mon organisme, là, nous, on s'est cassé la tête pendant des semaines, là. Tu sais, à tout l'analyser, le projet de loi 1, puis à écrire un mémoire, à faire de la recherche, à consulter plein de personnes, à consulter nos membres pour faire quelque chose. Et, je connais plein d'autres organismes, tu sais, qui ont des missions différentes de la mienne. On fait le travail comme il faut, là, de l'analyser sérieusement, puis de dire ce qu'il y avait à dire. Puis là, de voir ça, ils sont comme une bonne cinquantaine, c'est pas une centaine, à même pas avoir pris la peine de le faire.
Ils ont même pas décortiqué le projet de loi. Ils ont stické sur la partie qu'on leur a dit qui était problématique, puis ils sont montés aux barricades.
Exactement. Fait que quand tu regardes les périodes de questions, parce que les députés posent des questions aux gens en audition, sont presque pas capables de répondre aux questions parce qu'écoute, eux, ils ont pris un copier-coller de mémoire.
Ben c'est sûr que tu peux pas défendre que... Mais ça revient à ce qu'on voit dans la société en général. Les gens ont comme gobé cette idéologie-là parce qu'elle est très populaire puis est aussi très poussée dans les médias et le gouvernement, le fédéral, les libéraux l'ont beaucoup poussée pendant tout le temps qu'ils étaient au pouvoir. Mais quand tu essaies de les confronter aux incohérences de cette idéologie, ne serait-ce que par rapport à « OK, ben trouves-tu ça correct qu'il y ait des hommes qui s'auto-identifient comme des femmes pour être admis dans des prisons pour femmes pour avoir comme une prison plus cool avec eux. » Ben là, les gens disent « Oui, il y a le droit. » Puis mais tu sais, ils ne peuvent pas l'argumenter parce que c'est complètement illogique. Puis on voit bien que c'est de l'abus de lois qui sont rendues totalement permissives, que le cadre n'est pas précis. Ben c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont en abuser. Tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des trans en quelque part, que ce serait bien correct qu'ils aient dans des toilettes... tu sais, qui serait tout à fait sobre puis qui serait pas en train de faire de l'exhibitionnisme. Le problème, c'est qu'il y en a qui abusent de ça puis que c'est dans ce cadre-là qu'il faut protéger les femmes basées sur le sexe. Tu sais, mais tu peux pas... En fait, mon point, c'est qu'ils sont pas capables d'avoir un argumentaire parce qu'ils l'ont pas réfléchi. Ils l'ont copié-collé, ils ont acheté ça, puis ils mettent le chapeau puis ils sont comme, ben oui, moi, je suis pour le progrès, puis je suis progressiste, je suis à gauche, je suis une bonne personne, je suis un bon citoyen, tout le monde, ne me dites pas que je suis de droite, s'il te plaît. Puis ben là, après, quand tu essaies de les confronter, ils sont pas capables. Fait que là, ce qu'on voit en audition, c'est le même phénomène qu'on observe dans la société depuis un bon moment, que les gens ont pas vraiment affiné leur esprit critique par rapport à ce qu'ils défendent.
Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est pas des vidéos TikTok faites par des ados de 15 ans, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on parle de gens qui sont des gestionnaires depuis plusieurs années, qui gèrent des budgets, qui ont des organismes subventionnés par l'État. Qui vont répéter la même affaire, là. J'écoutais, nous, on les a presque toutes écoutées des auditions, là, puis il y en a plusieurs, où juste poser, répondre à la question si un homme refuse de se faire servir dans un restaurant par une femme parce que sa religion lui permet pas. Pour vous, est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est du sexisme? Les organismes sont pas capables de répondre. Ils veulent pas, ils veulent vraiment répondre, ils vont patiner.
Ils veulent pas se mouiller parce que là, ça serait de l'islamophobie puis tout ça, là.
Oui, c'est ça. Puis là, tu dis, OK, eux, là, ils sont là puis ils disent représenter nos droits collectifs à nous, là.
En fait, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est ça. Puis en fait, c'est que ça envoie fortement l'image, comme tu disais tantôt, qu'ils sont une majorité, alors qu'on... Où sont, en fait, une chance que vous étiez là, vous êtes fait entendre, mais est-ce que vous aviez d'autres organismes qui supportaient votre démarche à vous, qui était plus dans le sens de, oui, vive l'égalité homme-femme?
Ben, je pense qu'on est peut-être comme 2-3 organismes.
Plus que ça?
Non, ça va être des personnes individuelles, là, comme des professeurs,
oui, okay.
Des choses comme ça, tu sais, qui, eux, vont aller dans le même sens que nous. Mais écoute, on a écouté la FEAS, puis même la FEAS, qui est quand même...
C'est quoi la FEAS?
C'est un des plus gros organismes de défense des droits des femmes au Québec. Là. T'as la FFQ, t'as la FEAS, puis c'est des organismes qui existent depuis au moins une 60aine d'années. Là, quand
OK,
même.
OK, oui.
Qui sont même pas capables de dire que oui, eux sont d'accord avec le principe de l'égalité homme-femme dans...
Parce que c'est rendu à ce point transphobe
de dire ça. Écoute, les mémoires qu'ils ont tous déposées, qui se ressemblent tous, puis les allocutions qui sont presque toutes pareilles dans chaque audition publique, leur permet pas cette ouverture-là, là. Tu sais, eux se sont fait dire, faut tout rejeter, puis rejeter ça, puis...
Puis ils ont l'air fâchés, là, tu sais, quand ils le disent, là, c'est scandaleux, là, tu sais, il y a vraiment... Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est d'entendre des féministes dire, ça ne considère pas les personnes non-binaires et trans, là, vous êtes rendus, vous faites du militantisme, pour qui? Tu sais, vous êtes là pour représenter les femmes ou les non-binaires et les trans? C'est pas clair.
Ben non, c'est pas clair. Puis écoute, j'ai même vu des organismes de défense des droits des personnes handicapées qui avaient exactement le même discours. Tu sais, tu dis, t'es là pour représenter les personnes handicapées, pourquoi t'en parles même pas dans ton allocution ou dans ton mémoire? Je veux dire, t'es là pour représenter la communauté, puis je trouve que c'est dommage, parce qu'écoute, ils prennent énormément de place dans les auditions, là, parce que c'est quand même des plages horaires limitées. Puis je veux dire, quand tu représentes un organisme, que ce soit pour les aînés, pour les femmes, pour les gens issus de l'immigration. Tu sais, enlève juste les droits des femmes, mais toutes les autres. Tu sais, si t'es un organisme de Montréal-Nord, je veux dire, t'as la chance de pouvoir dire ce qui se passe dans ton organisme à Montréal-Nord, ou au Saguenay, ou à Chibougamau, ou n'importe où, tu veux parler de ta réalité, de tes membres à toi. Tu es là pour représenter ton organisme, parce que les besoins de Montréal versus les besoins d'une autre région, versus les besoins des personnes handicapées en ville ou en campagne,
pas la même chose.
Besoins, là. Fait que, tu sais, ils devraient analyser le projet de loi 1 selon leurs lunettes de leur propre organisme. Est-ce qu'on assiste à, c'est comme, on a pris ce qui a déjà été pré-marché pour nous, puis on le gère, puis on n'est pas capable de répondre à des questions si banales que êtes-vous pour ou contre l'égalité entre les femmes et les hommes?
En fait, on s'y oppose avec véhémence. C'est assez... je regarde mes notes, il parlait même du droit à l'avortement qui n'était pas protégé parce que là, on parlait juste des femmes cisgenres. Je veux dire, on parle des femmes, mais si t'es une femme, puis je veux dire, il n'y a pas d'autre que les femmes qui peuvent avorter. Je veux dire, arrêtez, là, avec votre délai. Tu sais, là, il était outré, là, parce qu'on n'avait pas considéré les femmes qui n'étaient pas cisgenres. Déjà, le mot cisgenre me donne de l'urticaire, mais je veux dire, une femme, c'est une femme qui a un utérus. Moi, c'est ça qui me fait capoter. J'ai reçu un prof de biologie dernièrement, j'ai pas encore passé avec François Chapleau. À quel point on est rendu qu'on nie la fondation totale de la civilisation qui est le principe homme-femme. C'est comme, comment on a pu en arriver là? Je capote un peu.
Ben écoute, plein de choses là. Tu sais, là, on parle du projet de loi 1 là, mais écoute, c'est pas la première fois que nous on voit ça, cette stratégie-là là, de débarquer en gang, de tout dire la même affaire pour un projet de loi là.
Comme quoi? T'as-tu des exemples?
Le projet de loi 2, la réforme du droit de la famille qui a eu lieu il y a quelques années. Toutes les lois qu'on a pour l'identité de genre, tu sais, que tu peux t'auto-identifier au Québec, un ado pour faire une demande de transition sans demander à ses parents, c'est le même procédé, là. Tu sais, on dépose un projet de loi, tout le monde peut déposer un mémoire, on ouvre quelques plages horaires, et là, étrangement, c'est tous les mêmes groupes qui pensent toutes la même chose, qui vont aller aux auditions, puis qui vont dire aux députés, la population, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent le sexe, c'est fini, maintenant on veut le genre. Puis tout le monde va dans ce même discours-là, fait que les élus, après ça, quand à la fin des auditions avec le peuple, ils font comme, bon, ben là, on est rendu là dans notre évolution de société, on a comme 50 organismes qui nous disent que c'est ça que les gens veulent.
Fait que dans le procédé démocratique, ces organismes-là, d'une certaine façon, sont notre voix auprès des politiciens.
Exactement.
Lâchez-les tout le monde, là. Je veux dire, je comprends pas. Non, mais c'est absurde. En tout cas, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'organismes qui n'ont pas un biais idéologique fort en lien avec l'idéologie de genre.
Bien, c'est ça. Quitte à ce qu'on tu sais, ce qu'on observe, c'est qu'ils délaissent carrément leur mission de base qui va être. Tu sais, j'ai vu un organisme qui s'occupe des familles de je sais pas quel coin à Montréal. Genre, on aurait pu penser que toutes leurs interventions auraient été pour les familles vulnérables de leur quartier.
Mais non.
Ça a été l'identité de genre tout le long. Puis là, tu dis, OK, tu sais, toi, tu représentes des familles démunies, là. Je pense qu'ils ont des besoins particuliers.
Fait qu'ils vont primer sur tu te sens comment aujourd'hui, t'es-tu comme plus un chat ou une fille ou un garçon, là, tu sais, c'est comme si c'est vraiment des problèmes du premier monde. Là, d'ailleurs, ça n'existe pas l'idéologie de genre dans les pays du deuxième ou du troisième monde parce qu'ils n'ont pas d'énergie à perdre avec ça. Là.
Non, tu sais, c'est vraiment comme des espèces de concepts idéologiques de luxe. Tu sais, quand tu es rendu à te soucier de l'identité des non-binaires dans ton organisme qui s'occupe des familles. Des familles défavorisées, mais que tu mets toute ton emphase puis que tu prends ton temps que tu es dans une commission parlementaire, dans une audition publique pour juste parler de ça.
C'est ça.
Je me dis, est-ce que t'as vraiment tout réglé les problèmes de pauvreté dans ton coin, là? Tu sais, j'ai des doutes, là.
Oui.
Tu sais, t'es rendu là.
Mais tu disais, étrangement, c'est tous eux qui se font entendre. Le processus de qualification, bon, c'est des plages horaires restreintes, là, ils font pas ça 24 heures sur 24, écouter du monde. Comment, bon, vous avez été entendu, comment ça fonctionne? J'imagine qu'ils ne peuvent pas retenir tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un va être sélectionné pour être entendu puis pas un autre?
Ça va être les élus, ça va être les députés qui vont décider. Ça va être le comité qui s'occupe de ce projet de loi-là, qui est composé de plusieurs députés avec des conseillers politiques, puis ça, puis c'est eux qui vont regarder comme toutes les gens qui ont demandé à être entendus puis qui vont les sélectionner. Fait que si ton organisme est super bon pour faire du PR, pour faire du réseautage auprès des élus, puis qu'ils te connaissent, ben il y a bien plus de chances que tu sois invité que un autre organisme que
parce c'est pas que... connu des politiciens là.
C'est ça. Puis tu sais, il y a aussi l'opinion publique, tu sais, ce que tu vois dans les médias traditionnels, c'est tout le temps le même type d'opinion, ben veux pas sont aussi influencés par ça, fait qu'ils vont y aller avec des groupes qui vont plus dans le sens de ce que tu vois dans les médias traditionnels, tu sais.
Donc, finalement, il y a un manque de représentation de... j'ai beaucoup dénoncé à ma chaîne que c'est la pensée unique dans les médias traditionnels. C'est très, très rare qu'on entende diversité de points de vue, là. Ça, c'est pas ça. Puis, je pense pas que les élus écoutent forcément beaucoup les médias alternatifs, même si, je veux dire, on assiste à l'émergence des médias alternatifs, puis c'est le futur, là, puis personne paye pour le câble, puis c'est une question de temps avant que ça s'effondre. Mais c'est comme si... Il y a quelque chose d'inquiétant parce que, bon, je pense pas croire profondément à la démocratie, mais ça démontre encore une fois à quel point même le processus démocratique qui se dit transparent a un biais, finalement.
Oui, oui, ben c'est ça. T'sais, nous, quand on a créé notre propre organisme, le Réseau féministe québécois, c'est justement parce qu'on voyait ça. On était comme, OK, là, on a tous les organismes communautaires vont dans le même sens. C'est la pensée unique. Si tu te questionnes sur certaines choses, t'es rejeté, tu peux pas fonctionner. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, il faut faire quelque chose. Fait que nous, on a créé notre organisme, on s'est dit, ben, on va penser par nous-mêmes, puis on va voir ce que ça donne. Là, tu vois, on a été capable de se rendre aux auditions pour le projet de loi 1, qui est la loi des lois.
Vous avez une bonne voix quand même. Dieu merci, tu sais, je pense que vous représentez, justement, ça montre que c'est pas représentatif des organismes qui incarnent vos valeurs. Il devrait en avoir plusieurs, mais ça prend le courage en ce moment de faire ce qu'Alexandra, tu fais, puis les membres, puis les gens avec qui tu travailles. Mais au moins, tu es entendue souvent dans la sphère publique, oui. Je pense. Tu as une bonne voix.
Puis je suis chanceuse parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, nous, on sait qu'on a des organismes qui sont d'accord avec nos positions, mais c'est le manque de courage. Elles savent que si elles s'affichent avec nous, ben là, ça se peut que la table de concertation X les contacte, puis que leur beau projet qu'ils voulaient faire subventionner, ben ça se peut qu'il ne soit plus. Tu sais, il y a toute cette game-là, tu sais, c'est... Je trouve ça dommage, parce que... tu sais, au Québec, les organismes communautaires, c'est important, tu sais, il y a des services à la population de tous les genres. Tu sais, de voir que là, c'est rendu ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le milieu communautaire. Quand j'écoutais les auditions pour le projet de loi 1, là, je peux te dire que à plusieurs fois, j'étais comme « OK, tu sais, j'étais un peu triste de voir où c'était rendu. » Parce qu'écoute, ils sont pas capables d'être pour l'égalité femmes-hommes. Ils ont de la misère à répondre à des questions qui sont assez... basique, surtout quand tu as déposé un mémoire, tu es supposé connaître ton dossier. C'est des gens qui sont quand même importants, qui ont beaucoup de contre-pouvoirs auprès du gouvernement. Puis de voir toute l'espèce de cirque là, d'attitude d'étudiants au cégep, les passifs agressifs, là, je veux dire, c'est la première fois que je voyais ça.
Ils sont très émotifs. C'était très impressionnant de voir ça.
Et c'était vraiment troublant parce que moi, j'en écoutais beaucoup des auditions. Dès qu'il y a des projets de loi, nous, on va écouter les auditions, peu importe le projet de loi. Là, dès que ça touche un peu nos dossiers, on les écoute. Puis je pense que c'est la première fois qu'on voyait ça. Là.
Autant d'émotivité, tu veux dire?
Autant d'émotivité. Là. Quand t'accuses le gouvernement de despotisme...
y a-tu vraiment eu ça?
Il y a un groupe qui l'a dit. Que
ils doivent pas savoir ce que ça veut dire, voyons.
Donc, ils soutenaient carrément les élus...
Mais ils savent-tu, c'est quoi du despotisme? Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'on est dans... En fait, il y a ça, j'ai noté aussi un autre passage de... C'est toujours la FFQ. Ça explique hein, pourquoi j'ai trouvé ça si difficile à recevoir. C'était trop émotif. Il y avait trop de passif-agressif. Genre, je devenais inconfortable. Il y en a une, là, de la FFQ qui disait... les immigrants, bon, les personnes issues de l'immigration, puis tout ça, ils doivent s'adapter à une identité nationale qui est très restrictive. Alors, dans ce projet de loi-là, là, selon eux, c'est le cas des... Mais je veux dire, vous immigrez chez nous, vous vous adaptez, c'est tout. Moi, je suis pour qu'on soit en train de définir c'est quoi être Québécois, puis c'est quoi immigrer chez nous, parce qu'en ce moment, on est comme... C'est un problème, l'immigration massive, puis on est en train de voir les dommages qui s'en résultent d'avoir eu autant d'immigration dans les dernières années sans avoir, comme Mathieu Bock-Côté le dit tout le temps, on n'avait pas ce qu'il fallait pour les intégrer comme il se doit. Toi qui as lu le projet de loi 1, bon, on n'a pas vraiment entendu tes positions là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un bon projet de loi? Puis, y a-tu des zones qui devraient être améliorées selon toi, toujours en lien avec ta position de féministe, là?
En fait, nous, dans une bonne partie du projet de loi, nous, on était d'accord. T'sais, nous, on est d'accord qu'on devrait favoriser l'interculturalisme plutôt que le multiculturalisme.
C'est quoi la différence?
Ben, en fait, l'interculturalisme, c'est que tu as comme une société d'accueil, puis les gens qui viennent d'ailleurs vont s'intégrer à cette société-là. Fait que tu as comme une culture, puis les autres, ils s'intègrent. Le multiculturalisme, c'est que toutes les cultures se valent de la même façon. Comme ce qu'on fait, la vision canadienne, c'est multiculturaliste. Au Québec, on essaie d'avoir une approche qui est plus interculturaliste.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est vraiment dans le but de qu'on puisse tous vivre ensemble puis être égaux. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, nous, on est en faveur de l'égalité homme-femme. On est en faveur du fait que ben, l'égalité entre les hommes et les femmes soit supérieure à la liberté de religion.
Y avait-tu des affaires qui vous ont titillé quand vous l'avez lu, ce projet de loi-là?
Il y avait comme une section sur l'avortement que nous, on n'a pas été capable de, même entre les membres dans notre organisme, de faire comme, OK, nous, on est contre ça. Parce qu'on veut inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Puis là, les craintes que tout le monde a probablement vues dans les médias, c'est que si on l'inscrit dans une Constitution, est-ce que ça va restreindre l'avortement si jamais il y a des poursuites judiciaires? Parce que là, présentement, ce qui protège l'avortement au Canada, c'est les jurisprudences. Fait que tu n'as pas de loi qui protège l'avortement. Là, le débat,
il n'y a pas de loi qui protège l'avortement, mais je pensais que c'était dans la loi. Là.
Non, c'est les jurisprudences qui les protègent. Fait qu'il n'y a pas de loi qui encadre l'avortement. Là, okay. La crainte, c'est que si tu mets ça dans une constitution, ben là, ça ouvre la porte à un encadrement. Fait qu'à mettre des restrictions.
Ben, ce serait une maudite bonne affaire, mais bon, ça, c'est moi qui pense.
C'est tout des si, ça l'arrive, ou des ça. Fait que nous, on était comme, ben, il y a pas, c'est pas super clair qu'est-ce qu'on devrait faire pour protéger plus l'avortement. Mais nous, ce qu'on demandait à rajouter dans la Constitution, on demandait à rajouter les principes de dignité humaine. Puis d'intégrité, de droit à l'intégrité de son corps.
OK.
En sorte que tout ce qui est exploitation sexuelle des femmes puis des mineurs, grossesse pour autrui, exploitation sexuelle, tu sais, tout ce qui relève de l'exploitation humaine serait comme, tu sais, on viendrait protéger nos droits de cette façon-là, comme on voit dans les constitutions européennes.
Mais malheureusement, ce qu'on voit aussi, toujours avec ce militantisme effréné de la gauche radicale, c'est qu'il y a des organismes qui défendent les travailleurs du sexe mineur, donc qu'ils aient le droit à vendre leur corps pour de l'argent. Est-ce que j'ai halluciné ça? Ça a eu lieu, ça?
Oui, ça a eu lieu.
Au Québec?
Au Québec, oui, c'est ça. C'est l'année passée, le Parti québécois a fait adopter une motion pour que le gouvernement cesse de financer, de subventionner les organismes qui font la promotion de la prostitution chez les jeunes.
Donc, on a le droit de dire le mot prostitution?
Ben,
c'est ça? OK, ben, j'étais plus sûre que c'était le bon terme.
Non, pour nous autres, c'est de la prostitution. Oui,
tu vends ton corps pour de l'argent, c'est de la prostitution, d'habitude.
C'est comme ça que ça s'appelle. Puis c'est des mineurs.
C'est illégal dans la loi.
C'est illégal. Tu sais, la prostitution chez les mineurs, c'est illégal.
C'est cela.
Juvénile, c'est illégal. Tout ça, c'est illégal.
Mais là, il y a un organisme qui avait reçu de l'argent du gouvernement, donc de mon argent, du contribuable et de ton argent, pour pouvoir faire valoir les droits des enfants, en tout cas des ados, j'imagine, qui veulent...
L'exploitation sexuelle des mineurs, ça pouvait être quelque chose que tu pourrais créer comme une espèce de relation enrichissante avec ton sugar daddy ou avec...
On est dans le délire, là, mais incroyable.
Tu sais, pour toi et moi, c'est évident que c'est une bonne affaire.
C'est ça.
Le gouvernement a passé une motion pour justement ne pas financer ça parce que c'est de l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est juste illégal au Canada, là.
Voilà.
C'est évident.
Et c'est immoral, puis ça va à l'encontre des valeurs des Québécois.
Exactement. Mais en réponse à ça, tu as eu une lettre signée par des milliers d'organismes, dont plusieurs organismes jeunesse, qui demandaient au gouvernement de reculer.
C'est ça que ça, là, c'est la partie la plus importante de la nouvelle parce que ça montre le monde dans lequel on vit présentement. Puis c'était pas 3-4 organismes là, qui ont demandé au gouvernement de reculer.
3-4 000, là. Écoute, c'était assez impressionnant le nombre de signatures. Parce qu'eux considéraient que c'est un jugement moral que le gouvernement faisait sur la mission de l'organisme.
Ben oui, mais c'est un jugement moral. C'est quoi, c'est légal de poser un jugement moral à quelqu'un qui fait des activités immorales? On n'a pas le droit de le dire, ça?
Ben, c'est parce que la prostitution des mineurs, c'est juste illégal, là.
Ben oui, on est tous d'accord avec ça, là.
Je vois pas pourquoi, collectivement, on devrait financer...
Est-ce qu'ils ont reculé, finalement, le gouvernement?
Ils n'ont pas reculé.
Ah, quand même. OK.
Mais tu sais, c'est que ça démontre à quel point, quand on décide de se regrouper ensemble puis de faire pousser un certain agenda, tu sais, je veux dire, quand tu vois 3-4 000 organismes là, qui sont « Ah oh, ouais, on est fâchés », fait que tu fais comme « Ouais, ça a vraiment un gros poids, mais... »
C'est pour ça que je suis impressionnée qu'ils aient réussi à quand même tenir leur point dans cet argument-là. Ouais.
Là, ce qu'on voit avec le projet de loi 1, c'est un peu la même affaire. Là. On se ramène tout en meute avec notre agenda, puis là, on veut faire croire aux élus que c'est la population qui exige tout ça. Là.
Mais tu sais, c'est ça, tu viens de parler du principe de la dignité. Je pense que c'est un bon angle pour l'approcher. Le problème, c'est que même ça, ça fait pas du tout l'unanimité parce qu'on a assisté à un militantisme sans cesse effréné depuis les dernières années. Mais tu sais, là, tu as parlé de GPA, la gestation pour autrui. Il y a eu le, je ne me souviens plus, à Casablanca, comment ils l'ont appelé, le sommet de Casablanca, un truc comme ça, où des gens du monde entier se sont réunis pour parler, pour débattre pendant plusieurs jours de la question de la gestation pour autrui, donc de porter, d'être une mère porteuse, là, de porter un bébé pour une famille qui, donc, du moment que le bébé sort de toi, tu le donnes, comme si c'était une marchandise. Bon, ils ont conclu, puis c'était des psychologues, des philosophes, des anthropologues, qui ont tous tiré à l'unanimité la conclusion que ça allait à l'encontre des droits fondamentaux de l'homme, puis que c'était contre la dignité humaine. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ça ait eu un raz-de-marée et que tous les pays aient arrêté de pratiquer immédiatement. D'ailleurs, c'était ce qu'ils demandaient, là, que les pays arrêtent immédiatement de pratiquer la GPA. Pourtant, le Canada est assez leader dans la question de la gestation pour autrui. Puis on voit le Québec maintenant qui en fait de plus en plus. Donc, parler de dignité alors qu'il y a comme vraiment une pression qui vient des groupes militantistes pour la GPA, est-ce que tu penses que il y a encore une possibilité d'être entendu avec l'argument de la dignité?
Bien, j'espère. C'est pour ouais. Nous, on a mis quand même beaucoup l'emphase là-dessus, même dans notre audition, parce qu'on trouve que ça serait important à rajouter, parce que justement, ça permettrait de protéger les mères et les enfants.
Mm-hmm.
De tout. Parce que là, au Québec, tu peux être marque porteuse sans être rémunérée. Puis là, il y a un contrat, une entente qui est notariée avec tes clients. Pour nous, c'est pas des parents d'intention, c'est des clients. Parce que.
Une transaction, là.
Il y a une assurance vie sur la tête de la mère porteuse pour protéger tes investissements. Puis tu mets toi-même bénéficiaire. Je m'excuse, là, mais.
Parce que c'est ça qui se passe.
C'est ça qui se passe, là. Pour moi, t'es des. Tu considères l'autre comme un objet, fait que tu considères que t'es un client, là. Mais, tu sais, on espère qu'en rajoutant ça, ça pourrait nous ouvrir justement à revoir tout ce qui se passe au niveau des grossesses pour autrui, là, parce que les recommandations internationales, c'est rendu ça. La déclaration de Casablanca, c'est ce qu'ils ont statué. L'ONU aussi ont déposé un rapport cet été par rapport aux grossesses pour ouais. autrui.
Il y a le Vatican, je pense aussi, qui s'est mêlé à ça. Là, qui...
Il faudrait que ce soit juste aboli partout, là.
Oui, donc il y a quand même à l'international un oui. mouvement qui avance du moins là, pour faire reculer ça, la GPA.
Mais au Canada et au Québec, là, on a des œillères. Là,
c'est ça.
Grossesse pour autrui, prostitution, identité de genre, là, nous, on n'est plus ouvert sur ce qui se passe au monde là, ailleurs sur la planète. On est vraiment comme...
Non, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'au lieu d'apprendre des erreurs des autres, puis de se dire, bon, on voit, mettons, la Suède qui recule, le Royaume-Uni qui recule par rapport à l'identité de genre, là, ben OK, on voit les dommages collatéraux, comme juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de Rose que j'ai reçue à mon podcast, qui est une détransitionneuse qui a été mal diagnostiquée en dysphorie de genre, mais qui avait finalement le trouble de personnalité limite, qui regrette sa transition, ben on voit, là, puis Rose, elle n'est pas seule. Je veux dire, il y en a. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « OK, ben nomme-moi-en d'autres. » C'est comme si c'était la seule et l'unique sur la planète qui avait regretté sa transition. Je dis « Ben, mon Dieu, mais premièrement, ils ne sont pas tous en train de faire une sortie publique. OK, c'est vraiment difficile. Deuxièmement, ben il y en a à la tonne. Là. Je veux dire, c'est vraiment, on a des chiffres, il y en a. On voit les dommages collatéraux, mais au Québec, on continue de répéter, ah ben non, ça sauve des vies, puis ah, une chance que là, maintenant, on offre ça aux jeunes, parce que ça sauve des vies. Non, ça sauve pas des vies, puis il y a des pédiatres qui sortent, il y a de plus en plus de gens qui disent non, ça fait des dommages, ça devrait être considéré comme un crime, ce que vous êtes en train de faire. Là, je prends l'idéologie de genre, mais tu sais, la GPA, pour moi, c'est tout aussi problématique puis immoral, tu sais, de traiter le corps de la femme comme un objet. Mais pourtant, tu sais, on le fait, puis ceux qui poussent ça, tu sais, moi, j'avais fait une chronique à choix là-dessus en 2022, puis je m'étais faite attaquer, là, dans mes commentaires par des mères qui avaient fait ça, puis comment ça avait été extraordinaire comme expérience, puis oui, mais avez-vous entendu les témoignages des enfants qui sont nés de mères porteuses, qui sont rendus adultes, qui sont comme suicidaires, qui ont toujours senti qu'ils avaient été abandonnés, qui n'ont jamais eu de contact, de lien qui s'est formé avec leurs parents, qui sentaient que quelque chose, mais ils se font mentir en plus, ils savent pas, puis tu sais, la détresse que ces enfants-là vivent, de nier le lien qui se crée dans l'utérus de la maman, toi qui es enceinte, tu sais, même si tu n'avais peut-être pas comme la génétique, parce que là, c'est ça, c'est qu'on implante un ovule puis de quelqu'un d'autre, fait que là, c'est comme si c'est pas ton bébé, il est connecté à ton émotion, pareil, il y a un cordon ombilical qui te... Tu sais, vous avez quelque chose, une connexion, puis là, tu sais, il sort, puis tu le donnes. Voyons, mais c'est complètement immoral de faire ça. Puis on est là à pousser dans ce sens-là.
Oui, parce que c'est du progrès.
Mais c'est ça, c'est pour au nom du progrès.
On nous vend ça comme un progrès social.
Ah mon Dieu, on est dans le délire.
Oui, mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on n'a pas eu de discussion en tant que société, là.
Non, puis la majorité, c'est même pas c'est quoi la GPA.
Non, c'est ça. Tu sais, pour revenir, tu parlais de Rose que tu as reçu à ton podcast. Bon, tu sais, Rose, comme un dommage collatéral d'une loi qui a été passée il y a de ça plusieurs années. Tu sais, quand je te parle de l'importance des commissions parlementaires et des auditions, tu sais, c'est une loi qui a été passée pour autoriser les mineurs à avoir accès à des soins comme elle a reçu. Puis ils ont invité une seule personne qui est une psychologue activiste.
Ça, c'est l'experte.
Ça, c'est la seule experte qu'ils ont entendue. C'est la seule personne qu'ils ont entendue dans cette commission-là.
Fait qu'ils n'ont pas invité personne d'autre cette fois-là.
Non, juste elle.
OK, elle était bien choisie.
Elle était de l'avant, puis tu sais que c'était nécessaire, puis tout le speech qu'on connaît, là.
Ouais. Le lobby pro-trans est très, très puissant.
Fait que tu vois, les élus, quand ils ont écouté le témoignage de cette psy-là, ils se sont fiés à sa parole, puis justement, c'est important, puis nanana. Fait qu'ils ont tous voté pour que à 14 ans, tu puisses entamer des bloqueurs de puberté, puis toutes ces choses-là, tu sais.
Mm-hmm. Mais tu peux. Tu peux pas te faire tatouer. Oui, c'est ça. Tout part d'une bonne intention, c'est ça qui est le pire.
Mais il n'y a pas eu d'analyse sérieuse qui a été faite quand ça a été adopté, cette loi-là.
Mm-hmm.
On s'est fié à la parole d'une personne, on n'a pas poussé plus loin. Là, tu vois, là, on se ramasse avec des témoignages déchirants comme celui de Rose.
Puis ça brise des familles, ça brise des vies. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est que à cause de ce lobby-là qui est très intense, on prend, tu sais, c'est ça que je disais à Rose pendant l'entrevue, on ne pouvait pas lui diagnostiquer le trouble personnalité limite, TPL, parce que ça, c'est quelque chose qu'on diagnostique juste à partir de l'âge de 18 ans. Mais la dysphorie genre, ça, par exemple, on peut la diagnostiquer là, dès 0 ans. Là. L'enfant peut lui-même s'autodéterminer en dysphorie genre, puis il faut l'accepter. Mm-hmm. Mais la TPL, non. Je veux dire, on voit à quel point c'est à géométrie variable selon la pression des militants. Puis, ben ça a coûté quand même très cher à cette pauvre petite Rose, puis à sa maman aussi, là, qui vit le combat avec elle. Puis, moi, pour moi, c'est ça qu'on voit qui est mais tout le monde le nomme de toute façon. Tu peux te faire tatouer, ça te prend la permission de tes parents avant 18 ans, mais tu peux te faire l'ablation des seins à 14 ans, ce qu'elle a vécu d'ailleurs. Il serait temps vraiment qu'on ait droit d'exister dans le débat public parce qu'il y a lieu d'avoir un débat, t'sais. Et espérons, en tout cas, que ce projet de loi va quand même tenir son bout. Je ne suis pas une fan de Legault, mais je pense que l'initiative, en tout cas, de faire ce projet de loi-là est essentielle. Ça fait longtemps, il y avait eu le projet à l'époque de la charte. Bon, ça avait fait réagir fortement, mais plus il y a de l'immigration, plus ça s'impose, d'ailleurs, là, ce projet de loi-là.
Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, ce qu'on peut voir aussi, puis ce qui est vraiment fort intéressant, c'est de voir, tu sais, comment... C'est que là, ça met en lumière tous les acteurs du milieu qui font en sorte que tout ce qu'on prenait pour acquis est en train de se défaire. Là, t'sais, là on voit c'est qui, on voit comment ça fonctionne, mm-hmm. on voit un peu de toutes les stratégies qu'il y a pour influencer le gouvernement. Puis tu sais, je veux dire, si le projet de loi 1 avance puis qu'il décide de retirer l'égalité homme-femme sous les pressions de centaines de groupes qui ont toutes répété puis copié-collé la même affaire, j'espère très honnêtement que la population va faire quelque chose, là. On peut pas accepter ça, là. Ça serait un recul, là.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme population? T'as-tu des idées?
Ben, vous pouvez écrire à vos élus.
Mm-hmm.
Les rencontrer, leur écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux, leur envoyer des courriels. Vous pouvez aussi faire comme nous, créer votre propre groupe de revendication de droits de tout ce que vous voulez, là. T'sais, un groupe de parents qui est pas d'accord avec toutes les lois qu'ils essayent de faire passer. T'sais, je veux dire, faut s'organiser. Moi, c'est ce que je vois parce que là, ce qu'on constate, c'est que ceux qui sont supposés défendre nos droits là, ont un autre agenda. Fait que t'es mieux de t'organiser. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre organisme. Si jamais il y a des gens qui veulent devenir membres de notre organisme, vous êtes la bienvenue.
C'est quoi ton site web pour vous trouver?
C'est réseauféministeqc.org. Vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram et Facebook.
Mm-hmm.
Fait que plus on va être de membres, plus on va être d'abonnés. Plus on a des gens impliqués avec nous qui veulent changer les choses,
plus mieux c'est.
Mieux c'est. T'sais, on devient comme un contre-pouvoir à ces gens-là qui veulent être un contre-pouvoir au gouvernement.
Oui, oui.
Ça nous permet d'avoir une voix plus forte.
Oui, c'est ça. J'invite vraiment les gens à moi, j'ai rejoint votre organisme, puis je me dis, bon, j'invite le monde à le faire, ou du moins, aller liker votre page Facebook, là, tu sais, déjà, juste ça, c'est pas compliqué à faire, puis on est souvent informé de nouvelles qu'on n'apprendrait pas autrement, donc vous faites un bon travail d'information ou de réinformation là-dessus. Puis merci, tu sais, de tenir le fort pour le combat des droits des femmes. Tu sais, moi, je me suis toujours dit féministe, mais avoir les féministes d'aujourd'hui, je me reconnais plus vraiment dans ces féministes-là. T'sais, moi, mon combat, c'est pas les non-binaires puis les trans, c'est d'être une femme puis que je puisse encore réclamer mon utérus puis d'appeler ça une maternité puis pas appeler ça une salle des naissances à l'hôpital parce que c'est pas assez inclusif. Puis c'est ça. On s'est tellement battus toute notre vie. Nos grands-mères, nos mères se sont battues pour qu'on puisse être enfin reconnus avec ce qui nous rend spécial, unique. Puis là, on est en train de nous l'enlever. Donc, non, l'effacement de la femme, ça passe pas pour moi.
Non, c'est ça. Fait que nous, c'est vraiment la défense des droits des femmes selon le sexe biologique.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est ça, notre angle.
C'est un très bon angle.
Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de défendre les droits de tout ce qu'ils voudront, de tout le monde en même temps. Mais nous, c'est vraiment là-dessus. Puis on est un groupe mixte aussi. Fait qu'on a des membres qui sont des hommes.
OK, ben oui, je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont concernés par ce qui se passe, là.
Ben c'est ça, tu sais, tout ce qui est, on vit tous ensemble. Fait que
c'est ça.
On est un groupe mixte.
Ouais, puis c'est pas un groupe féministe anti-homme, là, comme on peut s'attendre des féministes frustrés qui considèrent que les hommes, le patriarcat, c'est mal, puis qu'on va à mort l'homme blanc, là. Je pense pas que c'est ça votre approche non plus.
Non, on n'est pas du tout là-dedans.
Non,
on est
c'est
un
ça.
Groupe qui n'est pas subventionné. Fait que nous, on ne reçoit pas une scène du gouvernement. Fait qu'on est 100% autofinancé.
Vous n'êtes pas subventionné. Vous n'êtes pas éligible. Vous êtes trop radical.
On est éligible. Mais écoute, les probabilités qu'on soit subventionné, on n'est pas dans. On ne suit pas la gang, là.
Oui, vous dérangez.
Fait que c'est ça.
Défi quand même, je savais pas que vous étiez pas subventionné. Ben, c'est encore plus louable ce que vous faites. Ça doit être encore plus important que les gens s'abonnent, à payer leur petite cotisation si ça peut vous aider à continuer votre combat.
Oui, c'est ça, parce que ça nous permet de payer le site Internet et le logiciel qui nous permet de gérer notre organisme. Ça,
mm-hmm.
Écoute, ça peut être quand on monte à Québec pour faire la représentation, c'est vraiment juste comme des frais de base.
De base, c'est sûr.
C'est pas...
Non, c'est ça, vous devez pas vous mettre riche avec...
300 000,
là. Non, c'est ça, j'imagine. Ah, encore plus louable. Ben merci, Alexandra, puis toute votre équipe, là, pour ce que vous faites. Merci d'être venue nous expliquer ce qui se passe. Ben écoute, je pense que... T'avais-tu d'autres choses à dire? Je veux pas te couper l'herbe sous le pied.
Non, je pense je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Ben, en tout cas, suivons ce projet de loi de près. Puis, on pourra faire une mise à jour. Tu as dit que ça allait jusqu'à février, les auditions, hein?
Oui, c'est jusqu'au 18 février.
OK, donc il est encore en cours. On va suivre ça. Et merci à tous d'avoir écouté. Vous avez maintenant, en tout cas, des outils pour bouger, pour rester dans l'action, parce que moi, je pense que ce qui nous rend vraiment dépressifs, puis c'est l'impuissance. C'est le sentiment qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est trop gros, c'est un rouleau compresseur, puis qu'est-ce qu'on fait? Mais tu sais, je pense que ce que tu nommes, c'est important. Donc, être dans l'action. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut. Commentaire, ce genre de truc-là fait vraiment une grosse différence dans l'algorithme. Puis vous pouvez aussi partager si vous aimez le contenu. Toutes ces petites choses-là, c'est une belle façon de soutenir aussi ce qu'on fait, hein. Ça nous aide à faire parler de nous, mousser l'algorithme. Alors, merci à tous. Merci, Alexandra, pour ton temps. Si je te revois pas, là, personne voit, mais t'es enceinte par-dessus la tête. Donc, je te souhaite un magnifique accouchement.
Merci.
Merci.